mai 1995, pour le 50e anniversaire de la capitulation allemande, le pasteur Aimé Boniface, ancien déporté, se souvient de son rapatriement.
Nous avons traversé toutes ces villes allemandes bombardées. On s'en réjouissait, mais bon, c'est peut-être pas très humain de dire ça, mais c'est vrai que nous avions tant souffert qu'on disait, bon, mais ils l'ont payé. Et puis on a traversé la Hollande. Alors, les premiers drapeaux hollandais, qui ont les trois couleurs, mais en fait dans l'autre sens, Maastricht. Là, nous arrivons vers 11h du soir à Maastricht. Une foule de jeunes faisant la farandole, nous donnant quelques biscuits, quelques sandwichs. C'était pas énorme, mais c'était vraiment le contact avec la liberté.
Au printemps 1945, comme Aimé Boniface, des centaines de milliers de Français déportés empruntent enfin le chemin du retour. Une vaste colonne de survivants hantée par celles et ceux qui ne reviendront jamais.
Derrière la volée triomphale, il y a partout un glas pesant qui teinte. Écoutons bien, c'est l'heure des funérailles. De ceux qui n'en eurent point, assassinés dans les chambres de torture, ou qui, dans tous les Auschwitz et tous les Buchenwald, sont partis en fumée.
À ce stade du récit, nos trois personnages viennent d'être libérés. Ils ont donc survécu et ils vont pouvoir retrouver leurs proches en France. Souvenez-vous, Edmond Michelet a vu arriver les troupes américaines à Dachau, où il joue un rôle essentiel entre les détenus et les libérateurs. Gisèle Guillemot, la résistante communiste, prisonnière du camp de Mauthausen, a été exfiltrée par un convoi de la Croix-Rouge internationale. Et enfin, Denise Kahn, jeune juive alsacienne, a été libérée du camp de Theresienstadt par les troupes soviétiques. Ainsi, début mai 1945, l'Allemagne écrasée s'apprête à rendre les armes et nos trois déportés à rentrer chez eux. Alors, comment s'est organisé cet immense rapatriement? Comment les déportés ont-ils été accueillis en France? Et quel regard a porté sur eux la société? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
À vous qui m'écoutez, auditeurs fidèles de notre radio libérée, nous souhaitons que ceux d'entre vous qui ont été sinistrés retrouvent bientôt un toit et un foyer, et que bien vite se cicatrisent les blessures, et que se relèvent les rues.
Je m'appelle Philippe Collin, et vous écoutez Les Déportés. Cinquième épisode, le rapatriement.
Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
J'ai vu, à l'entour de ce camp de Dachau, des rescapés au visage transparent se traîner vers le soleil et tomber sur la route.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flagellantes.
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique.
On n'avait même pas la force d'être heureux.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Le récit débute le mercredi 2 mai 1945.
Camarade Maréchal, les Hitlériens ont hissé le drapeau blanc. Ils commencent à se rendre.
Répète, veux-tu ?
Les Hitlériens ont hissé le drapeau blanc sur le Reichstag. Ils se rendent.
À 4h du matin, le général allemand Helmut Weidling signe la capitulation des derniers défenseurs de Berlin.
La guerre est finie. Tout est fini.
La ville est tombée. À 17h, les troupes soviétiques hissent le drapeau rouge au sommet du palais du Reichstag. Une image pour l'histoire. Mais la guerre n'est pas complètement finie et l'Allemagne devient le théâtre d'immenses flux migratoires.
Il faudrait avoir l'imagination de voir les millions et les millions de personnes qui bougent dans cette Allemagne.
L'historienne Annette Wiewiórka.
C'est-à-dire, c'est une sorte de maelstrom avec des mouvements de population invraisemblables.
Parmi toutes ces populations en mouvement, on trouve d'abord les troupes allemandes, alliées et soviétiques, qui combattent encore. Ensuite, il y a le grand exode des civils allemands, qui redoutent les répressions. Et enfin, il y a tous les prisonniers et déportés à rapatrier.
Il faut comprendre que le retour des rescapés des camps s'inscrit dans le retour de tous les Français qui se retrouvent en Allemagne. Ça fait des centaines de milliers de personnes, les STO, les prisonniers de guerre.
Tal Brautmann est historien.
Et ça s'inscrit dans d'immenses mouvements de population à travers toute l'Europe et qui ne s'arrêtent pas dans les semaines ou les mois qui suivent la fin de la guerre, qui durent quasiment, en force entrée, une décennie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va profondément marquer l'Europe.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a actuellement plus de 4 millions de personnes déplacées en Europe ? Ici, nous avons des Italiens venant du fond russe, des femmes ukrainiennes prises pour le travail obligatoire par les nazis, des Polonais provenant des mines de sel de Bavière et Dieu sait quoi encore. Il nous faut interroger cette cohue dans toutes les langues de la Terre.
En effet, ces grands flux migratoires vont s'étaler dans le temps, comme ce fut le cas, par exemple, pour les soldats allemands prisonniers en France qui ne rentreront qu'en 1948, après avoir aidé à la reconstruction du pays.
À Duchère, petit village incendié par les SS, le préfet de l'Aube s'adresse en allemand puis en français aux prisonniers qui vont commencer les travaux de reconstruction.
Actualité française, 1945.
Allemands, vous n'êtes pas ici pour accomplir la tâche banale qu'on impose à des prisonniers de guerre. Vous avez à payer une dette d'expiation. Vous avez vécu pendant 12 ans en marge des lois divines et humaines sous l'influence d'un homme auquel vous vous êtes librement donné et dont votre servilité a ratifié tous les crimes. Vous pensez à votre patrie perdue, à vos parents, à vos femmes, à vos enfants que vous ne reverrez pas de longtemps. Vous plaiderez la pitié. Mais nous, lorsque nous serons prêts de nous attendrir, nous nous rappellerons les morts de Bûcher. Nous évoquerons le souvenir de tous ceux qui ont été massacrés, torturés, soumis à l'atroce mort lente des camps de Buchenwald, Dachau, Auschwitz, de tous ceux que nous ne reverrons jamais. Quant à vous, il ne vous reste plus qu'à mériter le pardon des hommes. Refaites-vous une âme, réparez, travaillez.
En ce printemps 1945, la fin de la guerre provoque un gigantesque désordre.
Et dans ce désordre, il va falloir rapatrier toutes les catégories, prisonniers de guerre, requis du STO et déportés otages résistants et déportés, comme on disait à l'époque, raciaux. Et là, un ministère va avoir la charge de ce rapatriement. C'est le ministère qu'on appelle Freinet, du nom de Henri Freinet, qui a été un grand résistant, et qu'on appelle le ministère des PDR, prisonniers, déportés, réfugiés.
Henri Freinet, sur France Culture, 1988.
J'avais demandé aux alliés dont nous dépendions, le commandement était pour l'essentiel américain, aux ordres du général Eisenhower, des rapatriements par avion qui m'ont été refusés, non pas parce qu'ils n'en voulaient pas, ils ne pouvaient pas, avant que la fin de la guerre soit finie, terminée, donner la priorité à autre chose qu'à la bataille. D'abord la victoire.
Ce ministère, il dépend quand même du haut commandement américain. Mais malgré tout, il va organiser un certain nombre de priorités. Et la première des priorités, ça va être les prisonniers de guerre. Pourquoi ? C'est des hommes jeunes, c'est des hommes qui peuvent continuer la guerre. Ensuite, il y a la situation des camps, et notamment des épidémies. Par exemple, Bergen-Belsen, qui est un camp où on ne devait pas mourir normalement, est devenu, avec tous les déportés qui ont été déversés, notamment d'Auschwitz, est devenu un véritable mouroir. Donc là, on a peur de l'épidémie. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on consigne les déportés dans les camps pour pas qu'ils répandent le typhus.
L'Allemagne vaincue, la voici encore. Ce camp de Belsen, transformé après sa libération en hôpital, où l'on soignait les uns, où l'on nourrissait les autres.
Actualité française, 29 juin 1945.
Belsen, où la mort lente a pendant des années fait son œuvre, a vécu 2 mois de grâce, jusqu'au moment où enfin il s'est trouvé vide. Alors on a purifié Belsen. Le feu du ciel peut sortir des lance-flammes.
Alors, cette peur de l'épidémie, elle vient de la guerre de 14, où l'épidémie de grippe espagnole a fait des centaines de milliers de morts sur les organismes affaiblis par la guerre. Donc, le rapatriement de Bergen-Belsen va avoir lieu tard, plutôt vers la fin mai, alors que les Britanniques sont rentrés dans le camp mi-avril.
Les prisonniers de Bergen-Belsen doivent donc patienter. Mais dès le mois d'avril 1945, les déportés et les soldats français commencent à rentrer au pays.
Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années.
Et au cœur d'une liesse populaire, les reporters radio viennent accueillir les rescapés, comme dans cette archive du 24 avril 1945.
Tenez, regardez, voici que d'autres camions apparaissent. La foule qui s'est massée devant la gare d'Orsay applaudit. Les soldats descendent des voitures, et il y en a un qui s'approche du micro. Vous voulez dire quelque chose?
Je suis très heureux d'être rentré à Paris. Mon paname que j'aime tant, mais hélas, j'ai une grande peine, c'est que ma femme est restée en Allemagne dans un camp de concentration. Alors je suis triste. C'est tout, je ne peux rien dire d'autre, tellement je suis ému. Allez, au revoir Paris, hein. Bonjour.
Alors, les déportés qui arrivent précocement sont accueillis comme les prisonniers de guerre et les autres à la gare d'Orsay. À l'époque, c'était une gare. Et puis, quand on voit l'état terrible dans lequel se trouvent les déportés, une opération est menée pour réquisitionner en fait l'hôtel Lutetia. Donc l'hôtel Lutetia, c'est un hôtel qui se trouve rive gauche. C'est un hôtel qui a été le siège de l'Abwehr pendant la guerre et c'est un hôtel de luxe. Et les déportés arriveront au Lutetia.
Témoignage de Michel Rocard, 2015. L'hôtel Lutetia était devenu un lieu d'accueil et de toilettage et de premiers soins pour les déportés de retour des camps. C'est là qu'on leur réapprenait à manger normalement et surtout qu'on commençait à les nourrir. Tout ce que je sais simplement, c'est que notre fonction à nous, les Boy Scouts, était d'aller les chercher dans les autocars. Certains pouvaient à peine marcher, on les prenait par le bras, et de les accompagner jusqu'au bureau d'enregistrement dans l'hôtel.
Yves-Pierre Boulogne, ancien déporté, 1995.
Le grand souvenir de Lutetia, bien sûr, c'est le souvenir de ses pères, de ses mères, de ses fiancés qui nous attendaient avec un « avez-vous connu ?» avec des photographies, avec des noms.
Je cherche ma famille, ma mère Marie, mon petit frère Félix. Ils ont été pris en 42.
C'était poignant, mais je dois dire que nous étions dans un autre monde, que nous étions très fatigués, que j'étais très fatigué, très malade à l'époque, et que, évidemment, j'avais envie de dormir.
Je sais plus.
À l'hôtel Lutetia, le ministre Henri Freinet a confié l'accueil des déportés à Sabine Zlatin, peintre et résistante juive.
Ils sont venus tout de suite en nombre. Il fallait les complètement changer. Il fallait les baigner. Il fallait les dépouiller, les cheveux, raser. Il fallait faire tout pour ceux qu'on a trouvés dans un état, vous savez, terrible. Par exemple, quand ils sont restés 3 ou 4 jours ou une semaine à Lutetia, il fallait changer les draps tous les jours. Et ils ne pouvaient pas s'habituer aux draps. Ils ne pouvaient pas s'habituer, vous savez, à un confort avec de l'eau chaude, de l'eau froide et tout. C'était plus fort qu'eux. On ne peut pas dire qu'ils étaient heureux de trouver l'eau chaude et l'eau froide. On ne peut pas le dire. Parce qu'ils étaient tellement surpris par tout cela. Ils ont dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment je vis? Est-ce que c'est vraiment un drap? Est-ce que c'est vraiment un véritable lit? Etc. Vous comprenez? Là, nous avons eu des assistantes sociales qui sont occupées moralement pour les remonter, vous savez, les morales, et pour leur dire, c'est la vérité, vous êtes libres. Mais naturellement, vous savez qu'ils ont beaucoup souffert, et c'est très dur de comprendre que maintenant, c'est la réalité, qu'ils sont revenus à la vie.
Et c'est dans cet hôtel Lutetia, sur le boulevard Raspail à Paris, que nous retrouvons Denis Kahn, notre premier personnage. Libérée du camp de Theresienstadt, la jeune femme juive est arrivée à Lyon par avion, avant de prendre un train pour Paris.
Paris, gare de Lyon, terminus, tous les voyageurs descendent du train.
Denise a 17 ans, rescapée d'Auschwitz, seule. Comment vit-elle son arrivée au sein de ce palace ?
D'une part, elle n'avait jamais été dans un hôtel de ce type-là, si chic, elle le dit comme ça. Mais surtout, elle dit, nous étions dorlotés.
L'historienne Zoé Grimbert.
Elle raconte que tout le personnel était vraiment aux petits soins, était attentionné.
Vous allez vous mettre là. Ça va aller.
Les déportés de retour étaient très bien nourris, les infirmières étaient aimables. Tout le monde faisait un effort vis-à-vis de ces personnes, notamment pendant les examens, les questions qu'on pouvait leur poser.
Excusez-nous pour toutes ces questions, mais nous devons vérifier l'identité des gens.
Et donc c'est un moment qui lui permet de se retaper. Et par ailleurs, pendant son séjour, elle rend visite à un de ses oncles, donc la tante chez qui elle avait logé avec sa famille au tout début de la guerre n'est plus là, semble-t-il. On n'a pas vraiment d'informations sur ce qui lui est arrivé, donc elle n'est plus là avec ses filles. En revanche, il y a son frère, qu'elle appelle l'oncle Willy, à qui elle va rendre des visites ponctuelles. Donc elle commence à recréer un peu un semblant de vie familiale à ce moment-là.
Il y avait aussi une famille d'accueil qui m'a accueillie à Paris.
Témoignage de Denis Kahn, 2006.
De personnes que vous ne connaissiez pas ?
Non, je ne connaissais pas. Une famille d'accueil. Et je me rappelle qu'ils avaient des magasins de mode et qu'il y avait trois filles. Et j'étais tellement, c'est-à-dire, non jalouse, mais je voyais ces jeunes filles qui avaient tout, qui étaient gâtées comme tout et qui avaient de beaux habits et tout ça. Et que nous, on n'avait rien. Alors, j'étais vraiment étonnée de voir tout ça.
Allô ?
Une fois... Il me semble que c'est d'ailleurs quand elle est chez son oncle Willy, elle reçoit un coup de téléphone.
Oui, c'est moi.
Qui lui dit que son père, c'est ce qu'elle entend, l'attend au Lutetia. Donc elle est très heureuse, elle croit qu'elle va retrouver son père. Elle arrive au Lutetia et en fait elle tombe sur son frère. Et donc elle est très heureuse évidemment de tomber sur son jeune frère, c'est le plus jeune des frères. Mais elle a quand même un choc parce que c'est son père qu'elle pensait voir. Et elle est choquée en voyant son frère parce qu'il est vraiment tout maigre, très malade. Et surtout, ce frère André lui apprend que Roger, un autre des frères, est décédé. Il ne donne pas d'informations sur le père et Armand. Mais en tout cas, Roger est décédé, ça il en est certain.
Témoignage de Denise Swapkan, 2013. Pendant tout ce temps, je m'étais imaginé que tout le monde reviendrait. Pendant des années, j'ai continué à penser « Ils sont emprisonnés en Russie ou dans un autre pays du bloc de l'Est. Ils vont revenir. »
Denis Kahn savait que sa mère avait été assassinée dans les chambres à gaz. Mais elle n'avait plus eu aucune nouvelle de ses trois frères et de son père depuis leur séparation sur la rampe d'Auschwitz à leur descente du train le 30 mars 1944. Au final, seul son frère André a survécu à la déportation. Mais comme des dizaines de milliers de déportés de retour en France, Denis Kahn a longtemps espéré retrouver les siens. À l'image de Simone Veil, qui se souvenait de cet espoir dans une interview en 1988.
Simone Veil, en mai, le 23 mai, je crois, vous arrivez à Paris, à l'hôtel Lutetia. Comment ont été accueillis les déportés et vous-même à Paris? Quels sentiments vous avez, quels souvenirs vous avez gardés de cet accueil?
Je crois que la distinction, enfin pour beaucoup de gens, ce qui est, au moment du retour, ce qui a été important, c'est de savoir s'ils ont retrouvé leur famille ou pas, et si surtout ils ont vécu cette angoisse de se demander qui allait rentrer et qui n'allait pas rentrer. Parce que il y a eu le sentiment pour les gens qui attendaient des déportés, l'espoir, beaucoup pensaient que les gens allaient rentrer, et au fond, on attendait les retours, chaque train, chaque jour. Nous qui avions vu ce qui était Birkenau, ce qui se passait, nous savions que ceux qui avaient été déportés n'avaient guère de chance de rentrer. En même temps, on conservait un petit peu d'espoir. Moi, qui savais ce qu'avait été le camp, mon père et mon frère, nous l'avons... Moi, j'ai espéré pendant des semaines. Et j'en parlais avec ma sœur récemment qui m'a dit, moi, non, je n'ai jamais espéré. Et moi, j'ai vécu dans l'espoir.
Archives RTF, 5 mai 1945.
Nous avons devant notre micro un rapatrié de Buchenwald. C'est un grand garçon blond, par ce qui lui reste de ses cheveux rasés qui recommencent à pousser. Nous ne lui demanderons pas quelle souffrance il a endurée. Nous en reparlerons quand tous ceux qui attendent encore seront rassurés sur le sort des leurs. Et puis on parlera de tout cela quand cela présentera une autre utilité que celle de la simple information. C'est au Bosch qu'il faudra rappeler tous ces détails en temps utile.
Dès leur retour en France, on veut entendre la parole des déportés. C'est l'actualité chaude. Et donc, dès le mois de mai 1945, ils sont invités à la radio pour raconter leur expérience.
J'étais en Allemagne au camp d'Orienbühl, un commando dépendant du camp de Sachsenhausen.
Je reviens d'un bagne de femmes en Allemagne. Je voudrais vous raconter ce qui s'y passe, mais cette tâche ne m'est pas aisée.
Une de mes plus vives impressions de Dora, c'était l'espèce de rictus de terreux que portaient les visages et aussi leur teint jauni par les longues heures de travail dans l'atmosphère malsaine du tunnel.
Ces témoignages de déportés du printemps et de l'été 1945, il en existe des dizaines dans les archives de l'INA. Et ils sont tous un peu construits sur le même modèle.
C'est extrêmement rapide, c'est quelques minutes, donc il ne raconte pas énormément de choses. Et surtout, il n'y a pas d'analyse sur vraiment le système concentrationnaire. Ils disent surtout leur joie d'être rentrés, leur souci de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Je crois que c'est quand même l'essence de leur témoignage.
Alors, prenons comme archétype du témoignage de déportés au printemps 1945 une interview de Willy Holt, un rescapé des forges hitlériennes. D'abord, ça commence toujours de la même manière. Autrement dit, une brève présentation par le journaliste.
William Holt, alias Gilbert Houdon, arrêté en décembre 1943 à Grenoble, passé par Auschwitz, Buchenwald, Dora et Belsen, nous parle.
Et ensuite, le déporté déploie le récit de sa libération. Prenons le temps de l'écouter. Première question, quand et comment a-t-il été libéré?
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique et nous incita à conserver le calme et la discipline, évidemment.
Au bout de combien de temps avez-vous quitté le camp?
Au bout d'une dizaine de jours.
Et quelle fut votre première étape?
Sulingen, un petit village sans importance qui en aura encore moins par la suite, étant donné la perte totale de son ravitaillement et de ses vivres, de ses objets vestimentaires.
Vous êtes servi vous-même?
Oui, un service de récupération s'est immédiatement constitué parmi les détenus qui rentraient au camp de Halt, les bras chargés de poulets, de lapins, de porcelets, de chevreaux, enfin de tout ce que leur faiblesse leur permettait de porter. Et puis nous eûmes en outre la satisfaction de voir les notoriétés du village, sous la surveillance de prisonniers et sous la garde vigilante des Anglais, creuser de confortables feuillets pour la nuit.
Combien de temps êtes-vous resté là?
Nous sommes rentrés le lendemain matin, pour arriver le soir à Rhein, ville plus importante, mais très abîmée par les bombardements, où 600 d'entre nous, dont je faisais partie, furent conduits à l'aéroport, et où, à raison de 35 par avion, nous fûmes embarqués pour Bruxelles.
Et l'arrivée à Bruxelles?
Nous sommes à 2 heures d'atterri au terrain des Verts où des camions nous attendaient pour nous emmener à l'intérieur de la ville. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé notre défilé triomphal. Et après plusieurs collations agrémentées de chansons, de toasts divers, nous nous retrouvons pour la première fois dans des lits confortables.
Et vous êtes reparti pour la France ?
Nous avons pris le train pour Lille directement, où nous avons mis pour la première fois le pied sur la terre française, non sans une certaine émotion, mais malheureusement à 2 heures du matin.
Vous avez été éreinté.
La joie du retour et les soins maternels qui nous furent prodigués dès notre arrivée nous empêchèrent d'y penser. Et nous nous sommes échappés avec le premier convoi en formation pour Paris. Nous nous sommes arrivés dimanche soir vers 17h30.
Et Paris, comment l'avez-vous retrouvé ?
J'ai ressenti ma première grande impression de retour et de sécurité en prenant le métro à Concorde.
Je vois que vous avez beaucoup maigri, il faudra vous retaper. Que comptez-vous faire maintenant ?
J'ai l'intention de partir le plus tôt possible dans les Pyrénées, dans ma famille, pour m'y retrouver.
Je vous souhaite donc un bon voyage, William Holt. Vous qui avez retrouvé votre nom et votre pays. Et j'espère que vous nous reviendrez vite en excellente santé.
Alors c'était le récit de William Holt, le 5 mai 1945, Annette Wiewiórka. Première remarque, c'est très factuel ce récit.
C'est un récit très factuel et c'est un récit qui est centré uniquement sur cette brève période de la libération. C'est un récit qui est d'une exactitude exceptionnelle. Et là, on voit toute son histoire singulière qu'il ne raconte pas. Il a été résistant, il a été arrêté, comme c'est dit à Grenoble en décembre. Je crois qu'il faisait du transfert de fonds pour un mouvement de résistance qui devait remettre pour le maquis du Vercors. Il a été torturé et il est passé à la baignoire. Et à la baignoire, les nazis se sont rendus compte qu'il avait été circoncis. Car né aux États-Unis, où on circoncisait les petits garçons par mesure d'hygiène et pas pour des raisons religieuses. Et malgré ces dénégations, transi Auschwitz, et il a donc été déporté par le convoi 67 du 3 février 1944. Dans ce convoi se trouvent aussi les enfants du collège d'Avon, qu'on connaît bien par le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. C'est-à-dire Anselmut Michel, Maurice Schlassen et Jacques Alpern.
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
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 Si je signale ça, c'est que quand Willy Holt rentre, il a survécu en déportation à Auschwitz grâce à ses talents de dessinateur. Il a été artiste peintre, mais après il devient décorateur. C'est donc lui qui a fait les décors du Père Noël est une ordure, mais aussi d'Au revoir les enfants. Et pour les décors d'Au revoir les enfants, il a eu un César.
Et le gagnant est Willy Holt pour Au revoir les enfants.
Willy Holt, à la cérémonie des Césars, 1988.
Je suis très content d'avoir gagné. Je suis très content parce que ça, mes enfants vont être très fiers. Les producteurs vont peut-être m'augmenter. Les commerçants de mon quartier vont être très fiers, ils vont sûrement m'augmenter. Et les élèves de l'école du cinéma de la Fémis vont commencer à me prendre au sérieux. Sauf s'ils regardent l'émission ce soir. Cela dit, contrairement à la coutume, je ne vais pas partager, je vais le garder.
Ah mais je ne veux rien, moi.
Je vais le mettre dans ma cheminée. Et si la cheminée résiste au poids, dans quelques années, quand je serai bien vieux, le soir à la chandelle, je penserai à vous qui avez été si gentil avec moi ce soir.
Sa remise de César, c'est une défense du cinéma. Et il n'y a pas un mot sur le fait qu'il a survécu à Auschwitz.
En mai 1945, à la radio, Willy Holt n'a rien raconté de son expérience concentrationnaire. 43 ans plus tard, en mars 1988, à la 13e cérémonie des Césars, Willy Holt, survivant de la déportation et lauréat pour « Au revoir les enfants », film sur les enfants juifs cachés sous l'occupation, ne dit pas un mot de son histoire. C'est troublant, et nous reviendrons sur cette parole des déportés après la guerre dans les trois derniers épisodes de cette série. Alors venons-en maintenant au rapatriement d'Edmond Michelet, notre deuxième personnage, libéré du camp de Dachau le 29 avril 1945. Après avoir veillé au sort des déportés français à la libération du camp et après avoir apaisé les tensions entre les différentes nationalités, Edmond Michelet décide enfin de rentrer au pays le 27 mai 1945. Alors, plus d'un mois après sa libération, à quoi ressemble le retour en France de ce commerçant résistant de Brive, détenu en Allemagne depuis 2 ans? La réponse dans le récit d'Edmond Michelet, intitulé « Rue de la Liberté » et publié en 1955.
Nous prîmes la route du retour dans la Mercedes que le général Leclerc avait mise à notre disposition. Dernier regard sur le camp où nous laissions, dans l'enclos du crématoire éteint, tant de cendres fraternelles. Vers la colline du Leitenberg, où achèveraient de se décomposer les milliers de cadavres des camarades qui ne connaissaient pas, comme nous, cet indicible moment de bonheur.
Alors son retour, est pas, il ne le fait pas en solitaire, il le fait avec quelques amis qui étaient restés avec lui. Le chanoine d'Aguzan, Joseph Rovan, qui va jouer un rôle très important après-guerre dans les ministères qu'occupera Michelet, René Nicot, un instituteur, et tout ce monde-là quitte Dachau le 27 mai 1945 à bord d'une Mercedes qui a été mise à leur disposition par le général Leclerc.
Laurent Douzou est historien.
Ça colore un peu ce que je vous ai dit. Le général Leclerc considère donc que Michelet est un personnage suffisamment important pour qu'on mette à sa disposition un véhicule de luxe pour rentrer où ? À Strasbourg. À Strasbourg, ils vont au bureau des rapatriés, ils obtiennent les titres de transport, les actes d'état civil, ils font la queue.
Vos papiers.
Et là, on voit déjà que ça ne va pas être si simple, parce que beaucoup de déportés trouvent que la queue est longue, que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, qu'on les traite sans se rendre vraiment compte de ce par quoi ils sont passés.
Allez, au suivant.
Donc ça, c'est l'étape de Strasbourg. Et puis de Strasbourg, ils vont à Paris, où alors Michelet est accueilli, on ne pourrait pas dire en grande pompe, mais quasi, par Georges Bidault, au Quai d'Orsay, qui est ministre des Affaires étrangères, et qui a noté que c'est un des rares cas où il est sorti de son perron et est descendu dans la cour pour accueillir quelqu'un au Quai d'Orsay. Ce quelqu'un, c'était Michelet qui arrivait à ce moment-là. Georges Bidault avait été le président du Conseil national de la Résistance, donc on était entre gens qui se comprenaient à demi-mot.
Comment est-ce que ce commerçant de Brive, certes, responsable de la zone R5 du mouvement combat de la résistance, déporté à Dachau et reçu par Georges Bidault au Quai d'Orsay. Parce que ce n'est pas évident, après tout c'était au départ un petit résistant, certes qui a tenu à Dachau, mais c'est quand même le ministre qui l'accueille au Quai d'Orsay, c'est un peu étrange peut-être pour nos auditeurs.
Alors oui, ça pourrait paraître étrange que le ministre des Affaires étrangères accueille un déporté parmi beaucoup d'autres, mais ce n'est pas un déporté parmi beaucoup d'autres, c'est, je dis Bidault, c'est le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance, c'est quelqu'un qui a été extrêmement proche du mouvement combat, qui sait le rôle de Michelet, et vous savez, avoir été chef régional de R5, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça vous vaut auprès de vos compagnons un immense prestige. Alors c'est un prestige que tout un chacun ne comprend pas nécessairement, mais c'est ça qui est intéressant. Pour Bidault, il n'y a pas besoin d'interprète ni de traduction. Il sait qui il reçoit. Et donc, je dirais que pour Michelet, c'est sûrement pas une surprise, et pour Bidault, c'est la chose la plus normale qui soit. Oui, c'est intéressant parce que là, on voit apparaître quelque chose qui va valoir après-guerre très longtemps. L'entre-soi résistant. ou l'entre-soi déporté. C'est-à-dire que ces gens-là parlaient pas beaucoup entre eux, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient très exactement ce qu'avait fait l'autre.
De retour à Paris, Edmond Michelet est accueilli par la famille des résistants. Mais il retrouve aussi et surtout un être cher.
À Paris, Michelet retrouve sa femme. Et ça, c'est absolument crucial parce que dans toute l'histoire qu'on raconte, on tend à présenter sa femme comme, oui, sa femme, sa comparse. C'est beaucoup plus que ça. Sa femme, c'est sa colonne vertébrale. Quand j'ai dit qu'il faisait des faux papiers dans la résistance, sa femme était très adroite pour faire de faux cachets et elle mettait la main à la pâte. Quand il est à Fresnes, elle lui soutient le moral. C'est-à-dire que il y a entre eux une connivence très très profonde.
Il est resté 6 mois à Fresnes, tout seul dans sa cellule.
Témoignage de Marie Michelet, 1988.
Et tous les 15 jours, j'avais droit, j'emportais à Fresnes un colis contenant de la nourriture et du linge propre.
Allez-y.
Je n'ai jamais vu mon mari pendant ces 6 mois, c'était absolument interdit. Mais j'ai trouvé un vrai moyen pour communiquer. C'était interdit d'écrire aussi. Alors je faisais cuire des pommes de terre avec la peau. Quand elles étaient cuites et froides, je creusais l'intérieur de la pomme de terre, je mettais ma lettre et je recollais la peau de la pomme de terre. Bien pendant 6 mois, ça a marché. Les Allemands ne s'en sont jamais aperçus.
Et donc, ils la retrouvent à Paris. Et là, tous les deux vont gagner Brive. Et ils y arrivent le 2 juin 1945. Ils sont accueillis, on peut dire triomphalement, à la gare de Brive. Même le Parti communiste a une gerbe de fleurs, ce 2 juin 1945, avec une inscription qui plaît beaucoup à Michelet. La section de Brive du Parti communiste aux camarades Michelet. Donc voilà son retour à Brive.
Souvenir de Christiane Michelet, 2014. Le retour à Brive fut triomphal. Papa ne put pas mettre un pied à terre de la gare jusqu'à la maison. Il fut porté en triomphe et acclamé, y compris par des brivistes qui s'étaient découvert une vocation de résistant fort tard. Quelques-uns, aujourd'hui fervents gaullistes, avaient été des collaborateurs notoires et d'aucuns avaient même menacé celui qu'ils acclamaient aujourd'hui. L'inquiétude avait blanchi les cheveux de maman, tandis que ceux de papa étaient toujours noirs. Papa en fit la remarque à maman, qui eut cette réponse admirable. « Bien sûr, pendant que tu étais tranquillement à Dachau, moi je me faisais un sang d'encre. »
De son côté, notre troisième personnage est aussi en route pour la France. Gisèle Guillemot, jeune Normande de 23 ans, a été exfiltrée par la Croix-Rouge du camp de Mauthausen le 20 avril 1945. Cette résistante communiste a d'abord été transférée en Suisse.
Alors ça, c'est le grand moment. Nous voilà sur les bacs et on traverse le lac de Constance.
Témoignage de Gisèle Guillemot, 1986.
Et on arrive sur le territoire suisse, on descend du bac, on est accueilli par la population avec vénération, tout le monde pleurait, c'était affreux. On les empêchait de nous toucher parce qu'on était contagieuses. Alors la police les repoussait sur le trottoir, mais des gens se mettaient à genoux, faisaient le signe de croix. Enfin, c'était complètement fou, hein. C'était un accueil délirant de ces Suisses-là. Et puis alors on est parti un beau jour là, de cette ville. Oh, c'est idiot, je ne me souviens plus son nom.
Alors, elle est conduite à Saint-Gall. Donc, ensuite, elle est rapatriée en France, donc à Annecy, puis à Lyon. Donc, dans des trains de troisième classe, voire pire. Donc, en gros, des vieux trains.
L'historien Fabien Archambault.
Donc, à Lyon, par exemple, elle voit passer le train luxueux qui ramène Pétain à Paris.
À chaque village, le train freinait et puis on nous donnait des colis. Et puis, bon. Puis, à un moment, on est resté dans un train. Dans une gare assez longtemps, Et on a vu passer un très beau train, là, c'était le maréchal Pétain qu'on rapatriait en France.
Et là, il y a l'idée, mais c'est nous qui devrions être dans ce train de luxe et lui, dans des wagons plombés. Donc, il y a en fait cette rancœur qui est d'abord politique, sur le ressentiment par rapport à une société qui a été complice et qui a laissé faire.
Que doivent-ils penser, nos déportés, en voyant que justice n'est pas faite ?
André Tollet, dirigeant de la CGT, 1945.
Alors que des milliers de francs sont dépensés pour la réception de Pétain, traité comme un héros, comblé de petits soins et de tous les égards, lui qui n'en eut jamais pour ceux qu'il livrait au bourreau Bosch.
Le 26 avril 1945, le même jour que Philippe Pétain, Gisèle Guimau est de retour à Paris.
Et maintenant, les services de rapatriement dirigent tous nos amis retrouvés vers la gare de l'Est.
Archives RTF, 1945.
On prendra là-bas leurs noms, leurs adresses. Ceux qui doivent repartir sur la province, on leur donnera des chambres qu'on a réquisitionnées. Ils vont dîner là-bas, ils vont se coucher.
Avec ses camarades libérés, Gisèle arrive gare de l'Est.
Et nous voici gare de l'Est. Les locaux ici sont vastes, bien éclairés. Il y a des tables parées de fleurs. Nos amis sont installés, en train de dîner. Et au menu, je vois soupe, bistec, chou-fleur, fromage et vin rouge. Vin rouge remplaçable à volonté, me dit une jeune femme de la Croix.
Un moment qu'on pourrait imaginer joyeux et festif, mais qui fut aussi un déchirement entre ces jeunes femmes.
Et puis là, c'est la séparation, bien sûr. Et alors là, c'est quelque chose de très dur à vivre. Parce que quitter comme ça des filles avec qui on avait vécu des moments si forts, hein, c'était une véritable déchirure, hein, c'était terrible. Alors avec les Parisiennes, ça allait vite, parce qu'elles étaient tout de suite récupérées par les familles. Mais on s'est retrouvées quelques-unes à l'hôtel Lutetia, là. On est resté là dans l'attente d'un train pour nos provinces diverses. Les unes allaient dans le nord, moi en Normandie, d'autres en Bretagne.
Si Denis Kahn s'est senti protégé dès son arrivée au Lutetia, comment Gisèle Guimau juge-t-elle son expérience dans ce palace parisien ?
Elle considère qu'elles sont maltraitées, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas lavées depuis. Donc elles sont traitées comme des bêtes répugnantes, dit-elle, qui sont maniées avec dégoût. Donc ça, c'est pour les contacts avec le corps médical. Et il y a la police qui mène des interrogatoires pour savoir d'où vous venez, où est-ce que vous étiez en Allemagne, etc.
Nom, prénom, âge, profession, adresse.
Donc elles vivent ça comme une sorte de suspicion par rapport à leur parcours en Allemagne qui est insupportable. Alors ensuite, il y a la vie quotidienne dans Paris, puisqu'elles sortent de l'hôtel Lutetia. Et elles disent, les gens ont l'air embarrassés comme si on était des Martiens. C'est-à-dire, elles sont encore d'une maigreur hallucinante. Elles portent encore les habits de Mauthausen. Donc en gros, elle dit, ça me permet de garder un lien avec celles qui sont mortes. Et une immense difficulté pour retrouver une vie normale, avec en gros l'idée que, c'est ce que dit Gisèle, nous avions plongé dans les profondeurs abyssales du mal. Et je ne savais pas comment nous en sortirions.
Dans ce retour qui s'avère assez difficile pour Gisèle Guimau, on peut mentionner une anecdote intéressante. Avec une camarade, revenue elle aussi de déportation, elles veulent profiter des joies de Paris et s'offrent une séance de cinéma. Mais là, que se passe-t-il ?
C'est un film de L'Éternel Retour, qui est un succès qui est sorti en 1943. Le scénario est de Jean Cocteau.
Patrice n'est pas descendu. Il est parti il y a une heure.
Ah,
c'est drôle. Je peux pas vous voir descendre cet escalier sans penser à Nathalie.
À Nathalie ?
Je parle de la mienne, celle qui a épousé l'oncle de Patrice.
Et elle fait un scandale en disant, enfin, vous avez tourné ce genre de film. Donc elle dit, en gros, c'est un navet. Et vous avez tourné ça alors qu'il y avait certains de vos compatriotes qui étaient en train de mourir dans les camps. Vous devriez avoir honte. Donc elle fait un scandale dans le cinéma, les spectateurs sont indignés, et donc on la sort. Quasiment, elle se fait embarquer par la police.
Après ces quelques jours étranges dans Paris, Gisèle Guimau s'apprête à regagner sa Normandie.
J'avais hâte de rentrer. Je me disais, bon, maintenant que je suis là, c'est fini. Bon, la déportation, c'est fini. Faut que je retrouve ma mère. Je ne sais même pas s'ils sont vivants. Alors donc, j'avais envoyé un télégramme à la mairie de Montbled. Et à Lutetia, on m'avait dit, tes parents t'attendent. Ils sont vivants, tu vas les retrouver. Alors, on te dira à quelle date il y a un train, bien sûr. Et un jour, on me dit, bon, ben voilà, t'as un train demain matin, tu pars demain matin. D'accord. Alors, me voilà dans le train, gare Saint-Lazare. On avait attendu d'avoir récupéré des prisonniers de guerre, et c'était un train uniquement de prisonniers de guerre. Il y avait, je sais pas, peut-être 10-15 wagons de prisonniers de guerre qui s'en allaient donc vers l'ouest. Puis me voilà là, moi. C'était donc le 30 avril dans la journée, et je suis arrivée le 1er mai au matin. Donc le 30 avril, il faisait froid, il y avait de la neige. Moi, je disais, je vais retrouver les pommiers en fleurs en Normandie. Ils étaient bien blancs, mais pas de fleurs. Hein. C'était couvert de neige, c'était superbe. Et moi, j'avais froid. Alors, j'étais dans mon wagon, et on m'avait laissée là, toute seule, dans ce wagon. Les gars étaient bougonnés, je sais pas. Et dans le couloir, j'ai dit, ben, moi, je reviens d'Allemagne. Et ils se mettent à m'engueuler.
C'est un train où il y a beaucoup de prisonniers de guerre qui rentrent eux aussi revoir leur Normandie. Et bah, elles ne comprennent pas trop ce qu'elles racontent, les camps, parce qu'elles ne savent pas ce que c'est que Ravensbrück.
Oui, ils arrivent de Stalag, voilà, de camp de prisonniers de guerre.
C'est ça. Et donc, et bah, ils la prennent pour une collabo. Et donc, elle se fait insulter. Fille à Bosch, qu'est-ce que t'as été foutre en Allemagne, etc. Et au point que ça en devient violent, hein, donc le contrôleur est obligé de l'enfermer dans un compartiment pour qu'il n'attente pas à Gisèle.
Puis nous voilà à Lisieux. Puis il y a une voix off qui m'appelle. Alors donc je sors du wagon, et là je trouve des hommes, des femmes, des gens là, avec d'énormes bouquets, des vivres, des boissons chaudes, enfin bon, un accueil formidable. Et on m'embrasse, et on me serre la main, et on m'acclame, et bon, c'était la fête. Je remonte dans le train, et alors là, tous les soldats défilent dans mon wagon et m'apportent du chocolat, des cigarettes, des tas de trucs, du sucre. Enfin, j'en avais plein le wagon. C'était, et tout le monde voulait m'embrasser. On te demande pardon. On ne savait pas. Enfin, c'était le délire. Hein. Et puis, j'arrive à Caen. Et j'avais un oncle qui était chef du personnel à la SNCF. Alors, il était sur le quai. Et il me dit, on te demande de rester là. Et donc, je reste. Et tous les soldats du train m'avaient fait une haie d'honneur, comme ça. Et moi, alors, je cherchais partout pour qui c'était. Et mon cousin me disait, mais c'est pour toi, c'est pour toi. Je disais, quoi, pour moi, c'est pas possible. Et puis là, c'est l'accueil délirant. Là, toute la ville était là, avec des fleurs. Enfin, vous avez vu les photos, hein, quelque chose d'énorme. Hein. C'est un truc à quoi j'avais jamais pensé.
Vive la République, vive la Résistance, vive la France.
Donc elle est accueillie comme une vedette, embrassée, ovationnée, portée en triomphe jusqu'à une voiture qui est décorée comme pour un mariage. Elle le dit, hein, elle est surprise, elle est émue, mais toujours en colère. Hein. Donc elle dit à son oncle, hein, qui est venu la chercher à Lisieux, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage d'être venus. Tous ceux qui me fuyaient parce que j'étais compromettante. Tous ceux qui se défilaient lamentablement quand nous avions désespérément besoin d'aide pour cacher nos amis menacés d'arrestation. Donc voilà le ressentiment qui ne la quittera jamais sur les lâchetés de la société française qui ont rendu possible Vichy et la collaboration.
Alors, en effet, elle est arrivée à Lisieux, puis à Caen, acclamée. Il est temps maintenant de retrouver sa famille, hein, ses proches. Comment se passent ces retrouvailles avec la fille, Gisèle Guimot, et la mère et les proches?
Bah, ça se passe très mal. Déjà avec la mère, hein, puisque la mère, dans la voiture, lui dit « Tu m'as fait très mal, je n'oublierai jamais ». Donc, alors, en gros, la rupture est quasiment définitive avec sa mère. Et il y a le sentiment que c'est plus sa famille. Son oncle, hein, lui dit « On a de la chance, ils sont tous vivants. » Sous-entendu, le beau-père, etc. Elle dit, mais non, dans son groupe de résistants, de 6 de 1940, il y en a 4 qui sont morts. Donc, en gros, il y a l'idée qu'elle va quitter la Normandie assez vite pour revenir s'installer à Paris, pour être au contact des anciens déportés qui sont sa nouvelle famille.
Ma mère m'a reproché de l'avoir fait tant souffrir, que j'avais vraiment pas le droit de lui avoir imposé ça. Et ça, j'avoue que je comprenais rien. Alors, je lui disais bêtement, mais tu vois pas que je suis une héroïne ? Et elle était furieuse et elle m'a dit, je n'oublierai jamais.
Des mots cruels et une immense désillusion que bon nombre de déportés ont pu ressentir à leur retour en France.
Quand les rescapés reviennent, ça fait quasiment 6 mois que la guerre est finie sur le territoire national.
L'historien Tal Broutman.
Et donc il y a un décalage évidemment, et que pour l'immense majorité des Français, ces gens qui reviennent, c'est des victimes, elles sont accueillies, elles sont prises en charge, vaille que vaille, mais nous on est passé à autre chose. Notre vie est la reprise, on s'est remis à travailler normalement, à vivre normalement, essayer de faire du système D pour manger mieux que ce que permet le ravitaillement. Et ces gens qui reviennent et qui racontent, les gens racontent à l'époque, les rescapés. On ne veut pas forcément les écouter parce qu'on est passé à autre chose. Et que c'est pas parce que, oui, c'est très dur, ma bonne dame, parce que vous avez souffert à Dachau ou à Ravensbrück, mais nous aussi, on avait faim en France.
Par ailleurs, tous les déportés ne sont pas vus de la même manière par la société française. Et une forme de hiérarchie s'est instaurée.
Parmi tous les gens qui ont été déportés vers le système concentrationnaire, vous avez en gros un tiers de résistants, un tiers d'otages et un tiers d'autres, parmi lesquels il y a beaucoup de criminels, des délinquants, des trafiquants du marché noir, des prostituées. Et ceux-là vont être exclus de la reconnaissance de leur expérience concentrationnaire. Ils n'ont pas droit au titre de déporté, ils n'ont même pas droit à cette reconnaissance-là. Parce qu'ils n'ont pas été déportés pour des raisons nobles, entre guillemets. Donc là aussi, il y a une forme de violence, in fine, qui s'exerce. Ils ont connu la même réalité concentrationnaire que les autres. Puis évidemment, ce qui va être mal vécu par pas mal de rescapés, c'est qu'on va parler essentiellement des résistants et pas des autres. Je ne parle même pas du sort des Juifs, en l'occurrence ici, qui va être très largement mis de côté pendant plusieurs décennies.
Et pourquoi on paye plus pour les pensions les déportés internes et résistants que les déportés qui ont juste été raflés parce qu'ils étaient juifs ou autre chose?
Nous avons établi donc un barème pour faire en sorte que ceux et celles qui sont tombés pour la France, les armes à la main, soient différemment traités. Mieux traités que ceux et celles qui, comme vous l'avez dit ici justement, se sont laissés rafler et déportés pour d'autres raisons.
En conclusion de ce 5e épisode, retenez d'abord que le retour des déportés et des prisonniers de guerre a nécessité une logistique hors norme, avec des flux migratoires impressionnants qui ont profondément marqué l'imaginaire européen.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a actuellement plus de 4 millions de personnes déplacées en Europe ?
Ensuite, ayez en tête que si le retour fut un immense soulagement pour les déportés, il fut aussi la source de grands espoirs déçus. Si les survivants retrouvent certains de leurs proches, ils comptent aussi leurs morts. Enfin, une fois passée la liesse populaire, de voir les déportés de retour à la maison.
Acceptez donc la France tout entière par mes bras, vous tendent les siens.
L'indifférence a vite pris le relais, comme l'expliquait très bien Simone Veil en 1988.
On rentrait dans un pays, dans un monde où les gens s'étaient organisés, sans nous.
Comment nos 3 déportés ont-ils tenté de se réinsérer dans la société de l'après-guerre ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les déportés, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Lecture, Bérangère Varluzel. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, la réinsertion. Les déportés est un podcast original de France Inter.